C'est pas grave, madame, vraiment.
Tout de même.
C'est pas ce qu'est une rixe.
Mais si, je sais, c'est une dispute entre voyous.
Pour entrer, il faut faire le tour.
Théâtre à l'oreille. Émission mensuelle de découverte du répertoire contemporain, présentée par la troupe théâtrale sonore Des Voix dans la nuit. Bonjour à tous. Ce mois-ci, nous recevons Monique Hervouette, metteuse en scène et formatrice qui travaille dans la région des Pays de la Loire depuis 1988. Monique Hervouette a créé la compagnie Banquet d'Avril en 2001 et cette compagnie est basée à Nantes depuis 2003.
Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors tu vas inaugurer le nouveau cycle d'entretien de cette année. Je rappelle que l'an dernier, nous avons reçu ici dans les studios de Jet FM trois auteurs de la région, Sylvain Renard, Éric Pessant et Delphine Bretéché. Cette année, nous recevrons trois metteurs ou metteuses en scène qui travaillent essentiellement dans la région nantaise. Es-tu originaire de Nantes ou es-tu une Nantaise ou vraiment Nantaise d'adoption ?
Alors non, je suis Nantaise d'adoption, mais toute ma famille, comme mon nom l'indique, Hervouette, hein, c'est vraiment le Martin du coin, toute ma famille, mes ancêtres étaient dans le vignoble, mais non, je suis Charentaise d'origine.
Un rapide parcours, qu'est-ce qui t'a conduit jusque-là ? Quelle a été ta première rencontre avec le théâtre ? Quelle formation, etc.
La chance. J'étais dans un village en Charente et dans une classe unique. Et j'avais une institutrice absolument passionnée de théâtre qui faisait partie d'un groupe amateur assez important, ambitieux, et qui nous basait toute sa pédagogie sur des activités théâtrales. Donc c'est dans cette classe que j'ai découvert le théâtre, l'art dramatique. Et puis de 100 ans peut-être quelque chose, elle m'a ensuite fait rentrer dans sa compagnie pour jouer des rôles d'enfant ou d'adolescent. Et ensuite, je ne me suis jamais arrêtée depuis l'âge de 8 ans. Et ensuite, le glissement s'est fait par d'autres compagnies d'amateurs ou du théâtre universitaire, puis progressivement semi-professionnel, puis la formation. La formation était, à l'époque, c'était après 68, nous étions extrêmement rebelles à l'enseignement institutionnel. Donc l'idée n'était pas du tout d'entrer dans un conservatoire, ils ont bien changé, heureusement, mais de faire des stages qui nous paraissaient novateurs. Voilà. Donc, je suis restée pas mal de temps au Théâtre du Soleil, en stagiaire, puis en observatrice. Je suis allée en Italie faire de la Commedia dell'arte New Look.
Mais tu as quand même, me semble-t-il, une formation plus institutionnelle qui te permet d'intervenir dans des conservatoires ou des choses comme ça.
Ah non, ça n'est pas une formation institutionnelle. Il y a eu en 93 un appel justement aux metteurs en scène et comédiens qui voulaient passer le concours pour renouveler justement l'enseignement dans les conservatoires. Ça s'adressait à des gens qui avaient une démarche de théâtre, c'est peut-être ambitieux de dire novatrice, mais en tout cas un peu plus en accord avec l'évolution des formes. Donc j'ai passé ce concours sans aucune formation spécifique et je l'ai obtenu. Donc ainsi j'ai pu ensuite enseigner dans pas mal de conservatoires, écoles nationales et tout ça. Mais j'ai toujours fait attention de préserver aussi ma vie d'artiste. Ça, c'est un problème pour les formateurs. Donc moi, j'ai vraiment très bien, c'est pas toujours facile, mais essayer d'alterner les moments de formation en conservatoire et les moments de création pure.
Est-ce que tu te souviens de la première pièce que tu as mise en scène avec toutes les cartes en main?
Alors, évidemment, au départ, j'étais comédienne. Oui. Et puis, petit à petit, pour rendre service, on m'a dit « tu veux pas aller en face et nous aider un peu ?» au sein de collectif. Ma première phase de vie professionnelle, c'est le collectif et j'y suis encore quelque peu sensible et attachée. Et puis, petit à petit, j'ai pris goût à tout ça. Et la première fois que carte en main, comme tu dis, c'était, alors dans les années 80 certainement, et c'était Le Roi se meurt d'Ionesco, dont j'avais rêvé une version tango.
Donc, nous étions. Réalisé une
version. Et nous l'avons joué beaucoup. Ça a été très important tout de suite. C'était chouette. On est allé à Avignon. Nous étions peu nombreux à aller à Avignon off et on pouvait se faire remarquer. Et en effet, ce spectacle a été remarqué.
Donc, à cette époque-là, ce n'était pas encore ta compagnie actuelle, Banquet d'Avril, on n'a pas cité le nom.
Non, c'était la compagnie que j'avais créée avec deux camarades à Angoulême. C'était le Théâtre de l'Éphémère qui ensuite s'est installé au Mans. J'ai accompagné l'installation au Mans, la création du Théâtre Paul Scarron. J'ai accompagné durant quelques années. Puis ensuite, ce collectif avait besoin de renouveler un peu sa vitalité. Moi-même, je n'avais pas envie de continuer à grandir avec les mêmes sensibilités. J'avais soif d'aventure et c'est ainsi que j'ai quitté cette aventure de l'éphémère qui, comme les spectateurs ligériens le savent, cette aventure continue et ce sont des amis très fidèles.
Avec beaucoup de succès d'ailleurs et de nouveau.
Ils sont surtout sur le répertoire contemporain, c'est une scène conventionnée.
Alors avant de revenir à ton activité de metteuse en scène et à ta compagnie, donc Banquet d'Avril, on va parler un petit peu rapidement de tes autres activités qui, on le comprend bien, sont liées à tout ton parcours. Ton activité donc de formatrice, tu es intervenue aussi dans le milieu scolaire ?
Ah oui, beaucoup de sollicitations en ce qui concerne la formation pour le bac théâtre. Hein. Vous savez qu'il y a l'enseignement de spécialité en première et terminale avec des programmes très copieux qui sont destinés à une épreuve du bac. Donc là, je suis beaucoup intervenue, oui, à la fois à Angers, au Mans, à Nantes.
Alors tu as aussi à ton actif beaucoup d'animations auprès des amateurs. On s'est même, nous, connus grâce à cela.
Ouais, hein, donc, mais tu vois, c'est vraiment la fidélité à mes sources,
oui,
quoi.
Oui, voilà.
Et je trouve aussi, on retrouve dans le théâtre amateur, parfois, justement, cet élan collectif, cet engagement que quelquefois la précarité du milieu professionnel empêche de véritablement ressentir. Enfin, il y a une humanité dans le théâtre amateur, une audace qui m'a toujours énormément séduite et je suis assez admirative de votre engagement.
C'est gentil, merci. Et ton partenariat avec le Grand T, c'est...
Oui, alors effectivement, depuis plusieurs années, le Grand T m'a confié une mission auprès de comédiens amateurs issus de différentes troupes du département. Et on a conduit comme ça, à la fois des propositions de lecture publique, puis des petits spectacles à créer avec d'autres amis metteurs en scène, bien sûr. Et puis là, on est sur une formule assez intéressante qui consiste à faire... trois approches par le jeu, par la mise en pratique de l'art dramatique, trois approches de trois spectacles qui sont programmés durant la saison au Grand T. Donc le jeu, c'est qu'on n'a pas vu le spectacle avant et qu'on essaie de rentrer dans le texte, de chercher un peu la matière d'interprétation dans ces textes. Et puis après, on va voir les spectacles ensemble et puis on en discute. C'est très riche.
Et les participants sont très satisfaits, je peux le dire.
Ah merci.
Tu travailles aussi avec des collectivités locales, donc il y a un projet là actuellement qui est en cours à Fégréac.
Oui, alors Fégréac, c'est une commune qui est à côté de Redon. Et il y a à Fégréac un site remarquable qui est une ancienne carrière dans laquelle depuis très longtemps, Christophe Rouxel, un collègue metteur en scène professionnel, a fait construire un théâtre de plein air, a aidé et participé à l'aménagement du lieu. Il s'est retiré de cette aventure depuis le collectif. Parce que là encore, il s'agit d'un collectif. Le collectif est très important. C'est une cinquantaine de personnes avec des compétences très diverses, mais qui sont toutes au service de l'art dramatique. Donc, ils sont venus me chercher l'an dernier pour me demander de leur faire un projet. On est dans un projet très ambitieux, puisqu'il s'agit de Cyrano de Bergerac, avec une trentaine de comédiens, plus une vingtaine de figurants. Voilà, c'est un projet collectif dans le sens où il y a plusieurs interprètes pour chacun des rôles. J'ai fait une adaptation qui prévoit une déambulation dans le site, parce que dans le site, il y a de nombreux lieux absolument exceptionnels. Bon, je vous passe des détails, il faut venir voir ce site qui est aussi un lieu de randonnée fameux au bord du canal de Nantes à Brest. C'est très intéressant. Voilà, donc je suis à fond, j'y étais ce week-end. On est en train de construire pour donc le mois de juillet Nous donnerons 12 représentations du 18 juillet au 3 août. Et c'est une proposition qui englobe même un repas. Nous accueillerons chaque soir 200 personnes. Et c'est un moment à vivre à Fégréac. Venez à 20h. Il fera encore beau. On verra le couchant. Et tout ça sera émaillé, évidemment, de différents actes de la pièce Cyrano de Bergerac. Et puis apéritif, repas, tout ça.
C'est très tentant. Et tu as même suivi des projets ou mené des projets qui associent professionnels et amateurs.
Oui, ça avait commencé par une chose un petit peu fameuse qui était le conseil municipal de Serge Valetti où la moitié de la distribution était professionnelle et l'autre moitié amateur. Il y avait 8 professionnels, 8 amateurs. Nous formions un groupe d'amateurs pour chaque zone géographique dans laquelle le spectacle était présenté. J'ai ainsi formé 16 équipes en Franche-Comté, en Poitou-Charentes, mais beaucoup. Il y avait 3 équipes en Loire-Atlantique pour pouvoir à la fois jouer dans le nord du département, enfin dans le vignoble et puis à Nantes.
C'était à l'initiative de qui ça ? C'était toi ?
C'était moi, mais on a été très bien suivis. On a eu de nombreuses coproductions. L'idée là d'associer des amateurs, c'était aussi rendre une image parfaite de la démocratie. C'est-à-dire le désir de participer à la vie collective d'une mairie. Il n'y a pas forcément des grands ténors de l'éloquence ou de la politique, mais ils sont touchants dans leur engagement. Et le texte permettait ça. Ensuite, toutes les initiatives mêlant professionnels et amateurs qui ont suivi étaient principalement des commandes dans des quartiers ou des situations particulières. Mais là, ça serait plutôt mêlé professionnels et habitants. Là, ce n'était même pas
des gens qui pratiquaient,
mais qui s'y essayaient pour l'occasion, soit pour valoriser la mémoire ouvrière d'un site, comme c'était le cas à la manufacture des allumettes de Trélazé à côté d'Angers, ou alors ici, dans le quartier de Bellevue, dans le quartier de Malakoff, ou dans le quartier de la Halvec, sur des projets qui mêlaient professionnels, et puis les enfants des écoles et des habitants adultes.
Très bien. Alors maintenant, centrons sur ton activité de metteuse en scène avec des professionnels, donc plus classiques,
voilà,
peut-on
oui.
dire. Alors, pour commencer, je vais te demander de citer 2 pièces qui te tiennent particulièrement à cœur. Alors, hors actualité.
Alors, une qui était très gonflée parce que c'était une grosse production et qui a très bien vécu puisqu'on l'a tourné pendant 3 ans, c'était le Tartuffe de Molière dans une version très contemporaine, costume contemporain, etc. Et qui m'avait été dictée par un séjour de 3 années. Pendant 3 années, j'enseignais à l'université de Sétif en Algérie pendant 1 mois. La perception que j'ai eue de l'évolution de l'intégrisme religieux auprès de ces jeunes étudiantes, notamment, tout ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et j'ai trouvé une résonance possible de cette inquiétude qui me guettait dans le Tartuffe de Molière. Voilà comment...
Ça, c'était en quelle année ?
2012, 13, oui, 14, oui, peut-être, oui, quelque chose comme ça. Ah non, je ne sais pas. Tu sais, le théâtre, c'est forcément éphémère et c'est forcément dans le présent. Oui. Donc, je ne tiens pas les archives de ce que j'ai fait. Je vois devant. Oui. J'ai même du mal, parfois, on s'étonne que je ne conserve pas de photos. Tout ça, ça ne m'intéresse pas.
Une autre ?
Ah oui, alors, La Belle Aventure, Marguerite Duras, j'en ai monté 3. J'ai monté Eden Cinéma et puis récemment, avec l'aide du Grand T, j'avais monté une adaptation de La pluie d'été. Ce sont derniers petits romans. Ouais. Et puis aussi une pièce plus intimiste qui s'appelle L'amante anglaise à 3 comédiens. Donc j'ai clos avec ces deux pièces-là il n'y a pas longtemps, hein, ça c'est 2015-2016, j'ai clos ma grande admiration et affection pour Marguerite Duras, que j'avais eu la chance de rencontrer.
Quand même, quelques petits mots, parce que là je ne t'ai pas laissé de temps pour en parler. Rapidement, ta compagnie, donc Banquet d'Avril.
Qui est installée à Nantes depuis 2001.
Oui.
Après toute cette période nomade, après avoir quitté le Mans, j'ai cru bon de restructurer, recentrer, voilà, en créant Banquet d'Avril.
Une équipe de comédiens.
De fidèles comédiens, mais tu sais, la situation financière ne nous permet pas d'entretenir une équipe permanente. Donc ce sont de fidèles comédiens auxquels on fait appel selon les choix de création.
Alors revenons maintenant à ton actualité. Deux mots de Philippe Dorin. Qui a été joué dans le cadre du Festival des Caves.
Voilà, alors 2018. Ça, c'est un truc extrêmement amusant. On m'a demandé de venir faire une mise en scène dans ce cadre-là. C'est une initiative franc-comtoise qui existe depuis 13 ans, qui appelle des metteurs en scène extérieurs avec une équipe de comédiens, avec cette particularité de devoir concevoir des spectacles se jouant dans des caves, pas du tout au sens viticole, hein.
Non.
Au sens souterrain. Donc, dans une très grande proximité du public, puisque les conditions de sécurité n'étant pas remplies, on n'a pas le droit d'accueillir plus de 19 spectateurs et on a le droit qu'à une prise électrique. Donc, autant dire que c'est un défi pour un metteur en scène et ce défi m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu parce que je trouve qu'on... Retrouver une proximité avec le public, évidemment une grande complicité à l'issue de la représentation, tout ça m'a semblé extrêmement audacieux, d'autant que la commande porte exclusivement sur des textes contemporains. C'était un défi qui m'a plu à tel point que nous avons donné une vingtaine de représentations en Franche-Comté, en Suisse, tout ça. Et puis on a ramené le Festival de Caves à Nantes. Puisque l'an dernier, donc, on a trouvé 5 caves à Nantes. Et c'était modeste, hein, parce qu'en Franche-Comté, ils ont 25 caves. Mais 5 caves dans lesquelles, pendant une semaine, on a donné notre spectacle de mots, mais aussi 2 autres spectacles invités parmi les 12 créations du Festival de Caves 18.
Et ça va se poursuivre en 2019.
Et ça continue, puisqu'on m'a demandé de refaire un projet pour Besançon et la Franche-Comté pour 2019. Ça sera un texte de Fabrice Melchiou qui s'appelle « Je suis drôle ». Pour aller vite, on pourrait dire que c'est le burn-out d'une humoriste qui n'en peut plus de cette injonction de faire rire les gens. C'est donc l'expression d'une comédienne, mais aussi de sa vie familiale. C'est un monologue, bien
oui,
sûr.
Oui.
Et
comme,
nous ramènerons...
Comme deux mots.
Comme deux mots. Et nous ramènerons aussi le Festival de Caves à Nantes. Ce sera la première semaine de juin 19. D'ailleurs, on cherche encore des caves. On voudrait changer un peu, amener les spectateurs dans d'autres caves. Donc là, j'invite tout le monde à être attentif à cette information, parce que c'est un joli... C'est un chouette moment à vivre aussi.
Alors, avant de passer à l'autre projet là qui est en cours, suivre les morts, on va écouter un extrait de la cuvée 2018 du Festival des Caves, deux mots.
Elle sort un tube de crème.
Moi, j'aime bien ma crème, c'est de la crème, je l'aime bien. Le matin, je m'en mets. Souvent, je m'en mets pas, mais des fois, je m'en mets. Parce que c'est très rare, la crème. Faut pas trop l'user. Mais quand je m'en mets, c'est quand même mieux. La crème, ça va dans un tube. Dessus, c'est écrit « crème ». On dit un tube de crème. Il y a aussi un bouchon qui se visse sur le tube. C'est pour pas que la crème puisse sortir. Parce que normalement, quand on appuie sur le tube, la crème sort. Des fois, faut même appuyer beaucoup pour en avoir très peu. Mais c'est très souvent que sans rien appuyer du tout, il y en a déjà partout dans le sac.
Elle jette le tube de crème. Elle sort une triplette électrique.
Moi, j'aime bien ma triplette électrique. C'est une triplette électrique que j'ai. Ça va bien dans les prises. C'est toujours mieux que les doigts. C'est fait pour brancher plusieurs choses en même temps. Normalement, il y en a 3. Souvent, c'est des lampes. Ça fait plus de lumière qu'avant. On appelle ça l'éclairage indirect. Ça éclaire les coins. Parce que c'est bien d'éclairer les coins. C'est très joli quand il y a des soirées. Parce qu'il y a aussi des soirées. C'est le soir, les gens viennent. Généralement, c'est des gens qu'on connaît. Parfois, c'est même des amis. On allume toutes les lampes, c'est très chouette. On voit pas trop ce qu'on mange, mais ça fait très joli autour. On appelle ça l'ambiance. Les disques aussi, on peut les mettre dans l'ambiance, mais pas fort. Faut surtout pas que ça gêne la conversation, parce qu'entre les gens, dans les soirées, il y a aussi la conversation. D'un côté, il y a les lampes, et de l'autre, la conversation. Mais moi, du côté de la conversation, j'ai pas la lumière dans toutes les pièces.
Elle jette la triplette électrique. Elle sort une lettre.
Moi, j'aime bien ma lettre de mise en demeure. C'est une lettre de mise en demeure que j'ai reçue. Je l'aime bien. Il n'y a qu'à moi qu'on l'a envoyée. Un grand honneur pour moi, ce fut. J'ai tout de suite compris que j'allais me retrouver dans une belle maison. Et j'étais très contente. Je m'étais bien préparée. Parce qu'une demeure, c'est pas n'importe quelle maison. C'est pour y demeurer. Il y a des fenêtres. C'est pour qu'on nous voit dedans. On est là, on demeure. Généralement, c'est dans des fauteuils. On fume. Tout le monde nous regarde. C'est très chouette. Mais faut pas nous prendre pour des demeurés quand même. Hein, l'être ? Sauf que c'était pas ça du tout. Parce qu'après mise en demeure, c'était écrit de quitter les lieux tout de suite. Et là, j'étais moins contente. Parce que c'est vraiment pas la peine d'aller dans une aussi belle maison si c'est pour déjà foutre le camp. C'est du gaspillage de transport, ça. Il n'y a pas assez de gens sur les routes, peut-être ? Alors j'ai replié ma lettre et j'ai resté chez moi. Si ça aurait été une farce, ça m'a pas fait rire du tout. J'ai failli voler une valise, moi.
Elle jette la lettre. Elle sort 500 000 euros.
Moi, j'aime bien mes 500 000 euros. Parce qu'en tout, ça fait 500 000 euros. Il y a le compte. Je les aime bien. J'ai aussi quelques petites pièces de 2 centimes au fond de ma poche que j'aime bien aussi. Mais je préfère quand même mes 500 000 euros. C'est des billets. Il y en a plusieurs. Je les compte. Ça m'occupe. Je révise ma table de 10. Moi, j'aime bien ma table de 10. Ça va assez vite à compter. Ça tombe toujours pile à la fin. 500 000 euros, c'est 500 fois 1000, mais des fois, c'est 10 000 fois 50. Ça fait beaucoup plus qu'avant, mais c'est toujours la même somme quand même. Il n'y a pas à rajouter au bout. Normalement, 500 000 euros, ça ne va pas trop dans les sacs. C'est pas fait pour aller au pain. À la rigueur des montres, mais j'ai pas le bras assez long. Ça va plutôt à la caisse d'épargne. C'est là qu'on les montre, parce qu'il y a les intérêts qui tombent à la fin. Mais là, moi, j'ai pas tellement intérêt, parce que ça risque de me coûter très cher.
Elle jette les 500 000 euros.
Alors, l'autre projet important en ce moment, c'est la pièce « Suivre les morts ».
Oui, que donc nous allons reprendre en janvier prochain. Au Grand T, et puis aussi à Saint-Nazaire, à la scène nationale.
Alors c'est un projet original, un pont entre deux disciplines, en quelque sorte.
Absolument. Là encore, c'était très singulier, c'est-à-dire que deux sociologues nantaises qui travaillent dans un laboratoire de recherche en sociologie qui est associé à l'école d'architecture de Nantes, ces deux sociologues sont venus me voir avec un projet, une enquête qu'elles venaient de terminer, en me disant, Monique, il y a peut-être moyen d'en faire des lectures, parce que, tu sais... Les sociologues travaillent beaucoup en enregistrant des témoignages. Donc, c'était un sujet pas banal, puisqu'il s'agit de la mort, non pas dans son point de vue deuil, émotion, etc., mais d'un point de vue pratique. Qu'est-ce qu'on fait des corps des morts ? Qu'est-ce que les morts font faire aux vivants ? Et elles avaient pointé plus exactement leurs interrogatoires et leurs études auprès de Nantais ou de l'aglo sur qu'est-ce qu'on fait dans le cas du désir de rapatriement dans le pays d'origine de morts issus de l'immigration. Ça m'a semblé, alors j'ai lu ça, j'ai lu les heures et les heures retranscrites de ces entretiens, et ça m'a absolument saisie. D'une part parce que je pense que la mort, on n'en parle pas assez. C'est absolument un sujet tabou aujourd'hui, hors de toute la mémoire de toute l'humanité, de toutes les civilisations. Faut penser à Antigone. Le premier geste de civilisation, c'est d'offrir un rituel à ses morts. Et nous, la société nous entretient dans une sorte d'immortalité innocente. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'ai eu à gérer la mort de mes parents, je me suis bien rendu compte que je n'avais pas les cartes. J'étais complètement démunie. J'aurais signé n'importe quel chèque pour faire n'importe quoi sans avoir réfléchi à ça. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et puis en plus, c'était une façon aussi de donner dans ce spectacle une image d'un islam beaucoup plus humain, beaucoup plus souple, qui négocie avec la modernité, qui s'invente, puisqu'il y a métissage obligé, puisque même dans le cas d'un rapatriement, le seul fait de travailler un corps pour qu'il prenne l'avion et dans quelles circonstances, etc., c'est déjà une entorse au rituel d'origine. Donc, comment s'invente, et principalement par des descendants de ces premiers migrants, ces descendants qui n'ont pas forcément la culture du bled, la culture vraiment traditionnelle, comment ils inventent ces métissages. Et c'est absolument passionnant.
On va d'ailleurs écouter un extrait.
Oui.
Le début qui dit bien tout ça. Et je vous recommande vraiment, vous les auditeurs, si vous le pouvez, allez voir ce spectacle. C'est un très, très beau spectacle. Le sujet, effectivement, peut paraître surprenant, voire...
glauque.
Oui, rébarbatif des sociologues. Pas du tout. C'est du théâtre. Hein, c'est très beau. Donc, nous terminerons par cet extrait. Je te remercie beaucoup, Monique, pour cet entretien.
Ben, merci à vous. Merci beaucoup.
Cœur des sociologues.
Suivre les morts. Parce qu'il y a ce paradoxe, on dit « un mort, ça ne bouge plus ». Mais si.
Et comme ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls, suivre les morts, c'est regarder comment ils font agir les vivants.
Les morts, ils sollicitent, ils interpellent, ils nous travaillent et travaillent pour nous. Suivre les morts, c'est regarder comment s'y prennent les vivants, ce qu'ils doivent inventer.
Tu choisis de suivre ces morts qui circulent plus que les autres.
Tu penses au rapatriement.
Le retour des morts immigrés sur leur terre d'origine va constituer le principal matériau de ta recherche.
Suivre ces cercueils voyageurs qui mettent en lien deux pays, plusieurs morceaux d'histoire, deux familles, plusieurs générations.
Suivre ces morts qui écrivent à leur manière une page de l'histoire de l'immigration.
Témoignage 1, Karim. Agir en aîné.
Depuis qu'on est petit, on sait que son choix, c'est de retourner à sa terre d'origine. On est 4 frères et 3 sœurs, je suis l'aîné. Le jour où c'est arrivé, j'ai demandé à l'entourage, aux gens qui avaient déjà vécu ça. Parce que moi, je suis musulman, mais non pratiquant. Je ne vais pas aux mosquées ou aux prières. Elle était malade à la fin. Elle me disait qu'elle m'avait laissé ce qu'il fallait, financièrement, pour que je m'occupe de son deuil. Comme je gérais ses comptes, elle m'avait dit « Tu ne demandes rien à personne, tu prends cet argent-là, tu m'enterres, tu me rapatries au pays. » Pour qu'il n'y ait pas de tension familiale, les choses étaient claires. Elle m'avait dit « Tu paies tout ». Elle ne voulait pas un enfant qui dise « C'est moi qui ai enterré maman, c'est moi qui ai payé l'avion ». Elle avait tout prévu. Dans la communauté, vous pouvez cotiser à une association et ils s'occupent de tout. Maman, elle, ne voulait pas. Elle a dit « Je paierai moi-même ». On m'a conseillé 2 organismes, dont celui avec lequel j'ai fait le deuil. Ils s'occupent de tout ce qui est administratif. Il faut les documents officiels valides, y compris le passeport. Heureusement, ma mère avait son passeport valide. Quand elle a passé la frontière, l'administration algérienne a gardé son passeport. Un seul voyage, il n'y a pas de retour. Pour nous, ce n'était pas assez rapide. En principe, au pays, le matin, on décède, l'après-midi, on est enterré. Nous, elle est décédée le samedi et n'est partie que le jeudi. Et comme le jeudi, on est arrivé en fin d'après-midi, après la prière de 13h, on a attendu le lendemain. Donc, elle n'a été enterrée que le vendredi. Après, le vendredi, c'est ce qu'ils appellent le Jumwa, le jour de la prière. Alors, les gens ont dit « le destin, ça a une importance ». Plus il y a des gens qui prient le jour de l'enterrement, plus elle va vite au paradis. Et il y a eu du monde. Dans la douleur, quand on vous dit « c'est bien, c'est un soulagement ». Elle est enterrée avec le cercueil. Moi, je n'ai pas lu le Coran, je ne pratique pas. Certains vous disent que c'est mieux sans le cercueil, d'autres vous disent que c'est mieux avec. Bon, pour moi, c'était mieux avec, dans la mesure où on ne voyait plus le corps, c'était fini. Et puis voilà, ils l'enterrent. Et après, il y a un tas de terre. Il paraît que plus vite la terre s'affaisse, plus vite elle monte au paradis. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, le paradis, je ne connais pas le chemin. Le deuil, ça permet de retrouver la famille. Ce n'est pas 5 jours de pleurs. On rigole, on parle politique. Mais moi, j'ai trouvé ça long. En fait, on mange, on passe le temps. Il faut être présent car les gens viennent pour les condoléances. Il faut faire acte de présence. Le côté réunion, je vous dis, il y a des côtés positifs. On a passé des moments ensemble. C'est toujours ce qu'on dit. On ne peut pas attendre qu'il y ait un décès pour se voir. Et les gens qui passent, ils nous parlent de notre maman, des petites anecdotes de quand on était petit. T'étais monté sur un âne et tu es tombé. Mais pour moi, c'était trop. Du monde, le soir, le lendemain, toute la journée. Les gens passent, on donne à manger. Moi, je n'organisais que la partie administrative. Et on a financé. Et encore, il y a une solidarité. Mettons qu'on a acheté 5 moutons. Il en a fallu 10 pour nourrir tout le monde. La tante en a ramené un. Un tel en a ramené un. Bon, un tel, je ne l'ai jamais vu ou je ne m'en rappelle pas. Sans tenir de jugement, je pense que ça s'est un petit peu emballé, vous voyez. La famille, là-bas, soi-disant, il faut faire ça, il faut recevoir là. Si j'étais humoriste, ce serait un peu comme les constructions au pays. Tu construis un étage, je construis un deuxième, peut-être un troisième, peut-être un quatrième. On m'a dit que c'était le plus bel enterrement qu'ils aient vu. Le lendemain, on vous dit la même chose pour un autre. Moi, j'avais un peu bloqué les choses en disant « C'est maman qui paie, ça ne va pas être la fête pendant 10 ans. » Pour moi, c'est le côté folklorique. En principe, si on est pratiquant, on est censé être venu avec rien et on part avec rien.
Les deux textes que vous venez d'entendre ont été enregistrés dans les locaux de Jet FM 91.2 par Daniel Rialan et Jacques Cassard. Je vous rappelle quelques dates qui concernent l'activité théâtrale de Monique Hervouet. Il va y avoir le Festival des Caves 2019, la première semaine de juin, et puis il y aura une reprise de Cyrano de Bergerac à Fégréac. 12 représentations sont prévues du 17 juillet au 3 août. Vous pourrez aller suivre au Grand T la reprise de « Suivre les morts » du 28 janvier au 3 février prochain. Nous nous retrouverons le mois prochain autour d'extraits de pièces qui ont un lien avec le cinéma. Nous pouvons même intituler cette émission « Du cinéma au théâtre » ou « Du théâtre au cinéma ». Vous pouvez également écouter notre émission podcast. Elle sera mise en ligne très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à l'année prochaine au mois de janvier. Bonne journée.